Moi, j'ai une théorie qui est que les meilleurs data scientists ont en fait une double casquette assez rare, c'est qu'ils sont à la fois d'excellents software engineers et en même temps, ils ont un excellent sens business pour justement échapper à l'écueil de ne s'intéresser qu'à l'engineering.
Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselm, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Cette semaine, je reçois Antoine Sauvage, ingénieur de l'école polytechnique. Il est CTO d'Oversea depuis sa sortie d'école en 2017. En 2020, Oversea accueille une participation majoritaire du groupe Bolloré. Aujourd'hui, ils sont 150 personnes dans 5 pays différents. Bonjour Antoine.
Bonjour Marc, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Alors Antoine, avant de parler de data, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Oversea? Qu'est-ce que vous faites exactement?
Alors Oversea opère un métier assez méconnu, mais qui représente près de 95% du commerce mondial, qui s'appelle commissionnaire de transport. Commissionnaire de transport, il faut vraiment le voir comme un agent de voyage pour marchandises. Par exemple, vous êtes une marque de cosmétiques et vous voulez expédier des marchandises de votre usine à Orléans vers votre centre de distribution à Singapour. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous organise le camion pour aller jusqu'au port, vous réserve un emplacement sur le bateau et de la même manière vous fasse passer les douanes et réserve un camion à l'arrivée. Donc ça, c'est le métier du commissionnaire de transport qui existe depuis qu'il y a du commerce international. Oversea s'est lancé avec une approche légèrement différente, une approche digitale. Donc ça veut dire qu'en plus de ce service qu'on fournit à nos clients, on additionne une plateforme qui permet aux clients de mieux suivre ses envois, d'avoir du reporting et de bénéficier globalement de toutes les innovations digitales des 20 dernières années que nos concurrents un peu plus traditionnels n'ont pas encore réussi à transposer dans leur proposition de valeur.
D'accord, oui, donc digitalisation by design depuis le début, vous devez avoir énormément de données. Est-ce que tu peux nous parler un peu de chez vous, comment c'est organisé la donnée, à quoi ça sert et à qui?
Alors, la donnée, elle est vraiment partout dans notre métier. Le métier de commissionnaire est un métier de données. C'est un métier où on échange de l'information entre différents acteurs de la supply chain. Donc, c'est vraiment notre ADN, je dirais, la donnée. Pour rentrer dans des choses un peu plus tangibles, nous, on a une équipe data, on va dire core, assez restreinte, qui est en charge de la qualité de la donnée et qui est finalement agnostique vis-à-vis de notre métier, auquel on a ajouté des équipes qu'on va appeler analytiques, mais qui sont en fait des vraies équipes data aussi, déportées, spécialisées dans les métiers, en particulier du côté opération, mais aussi sales ou produits. Donc, il y a vraiment un groupe data as a service qui est en charge de l'excellence data chez Oversea et ensuite des équipes qui, elles, sont vraiment en charge de l'excellence business grâce à la data.
Ok. Et l'équipe data, juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, c'est composé de combien de data analysts, scientists, tout ça?
L'équipe data, elle est réduite à sa plus simple expression. Il y a un data scientist, un data analyst et un data engineer.
Ok. Et son rôle dans la structure, c'est d'exécuter ce que le besoin business va pondre, ou est-ce qu'il y a un rôle plus fort, plus proactif de cette équipe?
Elle est vraiment là pour... c'est un enabler, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à disposition. Ce n'est pas self-service, consultation de l'équipe data pour obtenir une analyse. C'est réellement... elle doit vraiment mettre en place des produits, on peut dire ça, comme Metabase, de manière à ce que les autres équipes soient soit indépendantes, soit aient les moyens, en travaillant finalement un petit peu, d'accéder à des données de qualité et de produire des analyses pertinentes.
Ok. Et Metabase, outil de business intelligence, on va dire, quel genre de métier l'utilise Metabase chez vous? Quels sont, le nom des postes des gens qui utilisent Metabase?
Je dirais qu'il y a deux types de postes. Il y a les gens qui vont être dans ce qu'on va appeler le build. Donc, ça va être des gens qui vont avoir des nouvelles idées, vouloir pousser des nouveaux projets et déjà confronter leurs hypothèses à la réalité dès le début. Donc, ça peut être, par exemple, des gens de l'équipe produit ou des gens de l'équipe qu'on appelle Ops Excellence chez nous, qui doivent améliorer les process en interne. C'est une équipe product interne, en quelque sorte. Et eux peuvent déjà confronter leurs idées préconçues de ce qu'ils pensent sur le business et aller voir dans Metabase, créer une analyse ad hoc pour avoir une réponse en quelques minutes ou une ou deux heures. Après, il y a un deuxième type d'usage qui sont les équipes run qui, elles, suivent leurs KPI. Il y a énormément de KPI chez Oversea qui sont disponibles. Il y en a quelques-uns qui sont core et d'autres qui sont moins importants. Et les équipes run, les managers des équipes run en particulier, les team leads, peuvent se baser sur la data pour suivre la performance de leurs équipes et détecter des problèmes très en avance par rapport à ce qu'ils pourraient ressentir sinon.
D'accord. Aujourd'hui, si tu dois retenir une décision business que vous avez prise grâce à la data, tu nous dirais quoi ?
Alors, il y a deux exemples principaux qui me viennent en tête. Premièrement, le choix de nos prestataires. Par exemple, on a un prestataire qui nous fournit une solution de tracking, qui nous aide à trouver les bateaux dans l'eau. Et ce prestataire, il a une certaine qualité de service. Il y en a plein qui proposent ces services et ils ont des qualités de service vraiment différentes. Et la data nous permet juste basiquement de trancher entre les différents prestataires et choisir avec lequel on veut travailler pour donner la qualité de données la meilleure à nos clients, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est des data-driven decisions vraiment hardcore. La deuxième... ce serait peut-être l'automatisation. Nous, on est à un métier où, quand vous êtes sur un transport, il y a peut-être 2 heures de travail, 2 heures de travail humain, avec tout un tas de tâches différentes, plus ou moins compliquées, plus ou moins administratives, de la recopie, appeler un fournisseur, envoyer un document au client. Et tout ça, en fait, on l'a mappé grâce à la donnée. On sait exactement qu'est-ce qui prend 1 minute, 5 minutes, 4 minutes, 12 minutes, 22 minutes sur un transport. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'automatiser les tâches les plus chronophages en les prenant dans l'ordre. Et ça nous donne un avantage compétitif énorme, parce que plutôt que d'avoir un espèce de ressenti sur « oui, si on automatisait ça, ce serait peut-être bien, peut-être que ça créerait de la valeur », nous, on a une espèce de roadmap ultra claire en disant « non, en 1, il faut automatiser l'email qu'on envoie au fournisseur, en 2, le booking, en 3, le upload de documents pour nos clients ». Et ça nous donne, ouais, c'est une roadmap ultra claire d'automatisation.
Oui, vous avez des usagers différents qui vont tous penser que leur problème est le plus important et finalement, la data, ça vous donne un ordre de priorité réel entre les problèmes.
Complètement, ça permet vraiment de trancher et d'arbitrer.
Est-ce que vous faites du machine learning chez Oversea ?
Oui, on fait du machine learning. Alors, on a une approche qu'on pourrait appeler pragmatique. J'aime bien parler, moi, de machine learning tactique. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des petits problèmes. On n'a pas la prétention de régler une business line entière grâce au machine learning. Mais en fait, on va spotter les petits problèmes de nos métiers qu'on va résoudre grâce à des petits algorithmes qui sont simples à mettre en production, qu'on réussit à monitorer, à suivre, etc. Pour donner des exemples, les deux problèmes qu'on résout en ce moment grâce au machine learning, il y a une notion de prédiction de prix. Nous, construire un prix, c'est compliqué. Il faut appeler 5, 6, 7 personnes pour faire une proposition à notre client. Je reprends la métaphore de l'agence de voyage. Quand vous voulez construire un voyage pour votre client, il faut que vous appeliez la compagnie aérienne, que vous appeliez l'hôtel, que vous appeliez le taxi, etc. Ensuite, vous packagez ça et ça vous fait un voyage. Pour les marchandises, c'est exactement pareil. Le truc, c'est que peut-être que vous avez envie de donner un prix à votre client sans attendre la réponse du taxi. Parce qu'en fait, le taxi, que ce soit 10, 15, 20 ou 30 euros, ça ne change pas grand-chose. Ben nous, pour ces prix-là, on utilise un algorithme de machine learning qui va nous prédire un prix qu'on estime être correct et qui nous permet de répondre au client rapidement un prix, on va dire, du package sans avoir à attendre toutes les petites lignes. Et là, l'algorithme est vraiment très, très pertinent.
Donc, vous prenez le risque de suivre le prix annoncé par le machine learning. Vous assumez la différence si, finalement, le prix qui vous revient n'est pas le même. Mais ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de proposer un produit de meilleure qualité, entre guillemets.
Tout à fait. Le client a sa réponse en 2 heures contre environ 48 heures sur le reste du marché, ce qui est beaucoup plus intéressant pour lui, quoi. Je voulais aussi parler d'un deuxième cas d'usage qui est la lecture automatique de factures commerciales. Donc là, on est dans la data qui permet des innovations. Donc la facture commerciale, c'est quoi ? C'est un document qui est uploadé par le client sur notre plateforme et qui contient les informations de ce qu'il y a dans un transport. Un transport, c'est un conteneur et dedans, des produits. En général, le client ne sait pas exactement quels produits sont dans le conteneur, ou plus exactement, il le sait, mais c'est sur un document PDF obscur, parfois même un scan envoyé par son fournisseur. Et du coup, ça peut être très painful pour lui de savoir où sont les produits. Aujourd'hui, grâce au machine learning, on prend cette image, on prend ce PDF, on le lit automatiquement, on extrait les SKU, les références de chaque produit qui sont dans le conteneur, on l'upload sur notre plateforme et le client y a accès grâce à un moteur de recherche. Et à tout moment, il peut savoir ma Converse bleue en taille 42, elle est dans ce conteneur-là qui va arriver le 15 novembre au Havre. Et du coup, je pourrais le vendre à partir du 25 novembre sur mon site de e-commerce. Donc là, c'est vraiment un nouveau use case qu'on débloque. Mais à nouveau, c'est du machine learning tactique. C'est vraiment un pain point précis qu'on va résoudre grâce au machine learning et sur lequel on va itérer ensuite.
Oui, alors pour bien décomposer ici, vous avez des factures et vous utilisez le machine learning et la computer vision pour extraire, pour construire en fait un outil d'extraction du contenu. Et ensuite, ce que vous utilisez, c'est les données et vous les consommez de façon assez limpide. Vous les affichez aux clients sur votre interface utilisateur.
Tout à fait. Elles sont recherchables, etc. En fait, on prend une information qui est cachée dans un document qui est traditionnel dans notre secteur, mais absolument pas digitalisé. Et grâce au machine learning, on s'épargne l'étape de devoir tout ressaisir, ce qui serait en fait même pas économiquement viable de juste ressaisir, parce que enfin un conteneur, ça peut être des centaines de références, et il y a des centaines de milliers de conteneurs qui sont expédiés chaque jour, donc ce serait complètement inviable. Grâce au machine learning, on débloque de la visibilité, on débloque un nouveau use case, et on rend ces données accessibles aux clients, et puis à l'utilisateur final, finalement aussi.
C'est quoi la plus grande déconvenue que tu as eue avec la data ?
De ne pas en faire assez. Paradoxalement, c'est plutôt des coûts d'opportunité. Je pense que la data, par moment, a des angles morts. Je parle, par exemple, nous, nos sales price les transports. Et ils le font avec leur expérience, mais ça reste quand même un marché qui bouge énormément. On l'a vu, là, les prix des transports étaient divisés par deux en 3 mois. C'est quelque chose qui est compliqué pour l'humain à vraiment intégrer et à réussir à intégrer correctement dans son pricing. Et en fait, on a très tardivement utilisé la data pour aider les sales à pricer. On l'a fait dans les derniers mois. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux à deux égards. Petit un, on vend mieux. Les clients sont plutôt plus satisfaits de nos prix parce que en fait, ils correspondent beaucoup plus au marché et à ce qu'ils attendent. Et petit deux, les sales sont plus satisfaits puisque finalement, ça les décharge d'une charge mentale qui était juste fatigante et pas du tout créatrice de valeur, en particulier sur les clients qui sont nos clients récurrents, où la relation est déjà bien établie.
D'accord. Par rapport au fait que vous utilisez du machine learning pour pricer et que les prix évoluent, comment est-ce que vous gérez ce data drift, hein, pour utiliser un mot technique, le fait que la variable à prédire évolue, sa distribution évolue, comment est-ce que vous gérez ces choses-là ?
Donc déjà, il y a un contrôle a posteriori. Nous, on suit en permanence l'écart entre ce qui est proposé et ce qui est facturé à la fin. C'est quelque chose qu'on suit comme le lait sur le feu. Hein. Toutes les semaines, on regarde 98, 96, 99%. C'est des choses qu'on suit. Ensuite, en fait, alors, pour rentrer un peu dans le détail, l'algo, il a deux types de prédictions. Il a la prédiction du prix et il a la prédiction de « est-ce qu'il doit envoyer le prix ?». Donc c'est un algo à deux étages où en fait certes il y a le prix, mais ensuite il faut savoir est-ce que ce prix on veut l'envoyer au client ou pas en fonction d'un certain nombre de critères. Donc à nouveau, on peut entraîner un algo pour savoir est-ce qu'on veut envoyer le prix. Ça dépend évidemment de le prix lui-même, est-ce que c'est un prix élevé ou pas élevé. Un prix à 20 euros, oui, vous pouvez l'envoyer. Un prix à 20 000 euros, non, vous demandez quand même une vérification humaine. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, le pays de destination. Il y a des pays sur lesquels l'algo sera beaucoup plus précis que d'autres. Le mode de transport, peut-être même la compagnie qu'on souhaite utiliser. Tous ces critères, en fait, permettent d'entraîner un deuxième algo dont l'output, c'est l'indice de confiance dans le prix et ensuite la décision d'envoyer ou non ce prix, quoi.
D'accord, donc vous évaluez un peu le niveau de risque qui va avec le prix rendu.
Tout à fait.
Alors, est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data ?
Moi, j'ai une théorie qui est que les meilleurs data scientists ont en fait une double casquette assez rare, c'est qu'ils sont à la fois d'excellents software engineers, avec ce que ça implique en termes de compréhension des systèmes modernes de software engineering, en particulier tout ce qui est continuous integration, continuous delivery. Et en même temps, ils ont un excellent sens business pour justement échapper à l'écueil de ne s'intéresser qu'à l'engineering. C'est intéressant parce que sur le marché, il y a beaucoup de data scientists qui sont soit l'un, soit l'autre. Sans vouloir tomber dans une dichotomie absurde école d'ingénieur, école de commerce, il y a quand même un peu de ça, avec des gens d'école de commerce qui vont avoir un excellent sens business, mais qui, sur la partie engineering, ça les intéressera beaucoup moins. Et inversement, des ingénieurs qui vont être très intéressés par la partie pipeline, mais qui, en revanche, en général, ont un sens business assez moyen. Et donc, en fait, il y a un sweet spot entre les deux, avec des profils qui sont presque une épiphanie, et qui en fait maîtrisent les deux aspects et qui sont vraiment des pépites en entreprise et qui permettent vraiment de créer de la valeur pour toutes les équipes, quoi.
Un bon data scientist, c'est un data scientist qui a à la fois le business et les qualités de software engineer.
Tout à fait, et vraiment des vraies qualités de software engineer au sens du développement informatique lourd, quoi.
Pas juste les bonnes pratiques.
Les bonnes pratiques. On parle pas juste de savoir mettre un script Python sur un EC2 pour faire tourner un crawler la nuit. On parle vraiment de best practice, de domain-driven design, de craft, de choses comme ça, quoi. Ça, c'est des profils qui sont extrêmement rares et qui, je pense, sont l'avenir des fonctions data des entreprises.
Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui monte une boîte comme Oversea et de zéro, qu'est-ce que tu lui conseilles comme stack technique, comme mise en place au début? Sur quoi il faut se précipiter? Sur quoi il faut attendre?
Alors, si on parle d'outils en eux-mêmes, en ce moment, DBT a vraiment la cote. DBT permet de faire vraiment énormément de choses. À titre d'exemple, nous, dans DBT, on a mis tout un système en place qui nous permet de faire ce qu'on appelle des business checks. Un business check, c'est quoi ? C'est vous avez des règles dans votre base de données, des règles métiers dans votre base de données. Par exemple, normalement, une date d'arrivée, c'est après une date de départ. Et c'est quelque chose que vous voulez avoir dans vos données parce que ça donne de la qualité et ensuite les analyses sont beaucoup plus pertinentes. En fait, grâce à DBT, par exemple, on a mis en place un check. Donc, on a encodé cette règle. On a dit, globalement, les dates d'arrivée doivent être après les dates de départ. Et DBT tourne de manière régulière. Et si jamais il y a une incohérence qui est détectée, on a un système de notification qui se met en place de manière automatique et les personnes qui sont en charge de ces données sont prévenues sur Slack directement et doivent aller corriger, comprendre, etc. Donc, en fait, on n'a pas d'intégrité by design, en quelque sorte. On a juste une intégrité, une consistance à la fin, eventual consistency de nos données à l'échelle de la semaine, quoi.
D'accord. Donc, c'est des tests qui ont été écrits par des humains. Ces choses-là, c'est pas les algorithmes qui sortent des anomalies tout seuls ?
Malheureusement, pas encore. On aimerait évidemment, mais là, on parle vraiment d'implicite métier qui est caché dans la structure de base de données, qui est caché au cours du process de développement et dont on aimerait vérifier la cohérence à la fin.
D'accord. Et donc ça, vous avez des tests automatiques qui vous permettent de pas persévérer trop longtemps dans l'erreur en cas d'anomalie, en cas de...
Oui, tout à fait. Il n'y a rien de plus désagréable pour un data scientist que de prendre un dataset qui a 2 ans et de s'apercevoir que à l'année précédente, en fait, il y avait une erreur dans les données et il y a tout un tas de données qui sont perdues ou manquantes ou bruitées parce que personne n'a juste pensé à regarder cette base de données à ce moment-là et le bug aurait pu être détecté facilement, quoi.
D'accord. Donc même des données qui ne vous servent pas immédiatement, vous avez des tests pour vérifier que par la suite, si on a besoin de ces données-là, elles sont intègres.
Tout à fait. Pour reprendre la date d'arrivée qui est postée à la date de départ, c'est un exemple réel. Au fond, c'est pas très important s'il y a un peu de bruit dans les données.
Oui.
Le client va peut-être s'en apercevoir ou non que dans son reporting, il y a eu une petite erreur. C'est des choses qui arrivent. Ça représente peut-être 0,1, 0,2, 0,5% des données. Mais en fait, si vous êtes l'analyste qui reprend ces données dans un an, en fait, vous allez passer du temps sur un problème qui devrait même pas exister. Et ça permet aussi, en général, de corriger des bugs, cette fois-ci software, puisqu'en fait, quand vous avez une incohérence dans les données, c'est un bug software qui est sous-jacent. Et plus tôt vous corrigez le bug, mieux c'est, quoi.
D'accord, ouais. Des choses aussi simples que la date de départ antérieure à la date d'arrivée. Des tests comme ça, ça peut sauver un dataset utile dans 2 ans.
Ouais, on a changé d'heure la semaine dernière. Quand vous êtes dev, c'est facile de faire +1 au lieu de -1. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Et ça arrive même aux meilleurs devs chez Oversea. Donc c'est quand même très utile d'avoir ce genre de test a posteriori.
Ouais, vous êtes exposé à beaucoup de drift, soit de ce genre-là, mais ça peut être des drifts hardware, des changements de matériel, des changements de fournisseurs, des choses qui font que d'un coup, on a un comportement complètement différent dans les données du jour au lendemain.
Ouais, alors pour reprendre à nouveau la métaphore des heures, les heures, c'est vraiment un vrai problème dans le transport international quand vous êtes développeur, parce que vous savez jamais à quelle heure vous êtes. Enfin, quand un transport part de Shanghai, arrive à Paris, que la donnée elle est hébergée sur un serveur à Londres et que la personne qui s'en occupe elle est en Allemagne, c'est un cauchemar absolu de savoir quelle heure vous devez stocker, quelle heure vous devez afficher et comment vous devez calculer, par exemple, quelque chose d'aussi bête que la durée du temps de transport. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et du coup, effectivement, si vous changez de serveur, que vous passez de la zone AWS en Irlande, à la zone AWS de Francfort, et ben ouais, il y a des choses qui changent de date, parce qu'avant, c'était le 23 janvier à minuit. Et puis, du coup, vous affichez 23 janvier. Et puis après, c'est le 22 janvier à 23h. Et puis là, bah, vous affichez 22 janvier. Et la personne qui doit se pointer à Shanghai pour récupérer le conteneur, et ben, elle n'y est pas la bonne journée, quoi.
Aujourd'hui, quand tu recrutes les gens dans ton équipe data, tu cherches quoi alors ?
Ça dépend un peu du niveau de maturité. Je pense que les premières personnes, il y a un vrai objectif de légitimation de la data dans l'entreprise. En particulier s'il n'y a pas de founder qui s'occupe de la data.
Ce qui est votre cas ?
Ce qui est notre cas. Moi, j'avais très peu de temps pour m'occuper de la donnée. Et donc, je dirais que les tout premiers data scientists qu'on a recrutés, c'est des gens qui doivent être inspirants, qui doivent comprendre vraiment la valeur business de la data, pouvoir évangéliser les gens. Il y a vraiment un travail d'évangélisation pour les premiers employés, et donc ils doivent être capables d'être vraiment transverses, d'aller voir toutes les équipes, comprendre leurs besoins, leur proposer des solutions et les convaincre d'utiliser la data au quotidien. Ça, c'est vraiment les tout premiers employés d'une équipe data. Ensuite, il faut aller chercher des spécialistes. Quand on a des problèmes de pipeline, eh ben oui, il faut aller chercher des gens qui sont des excellents data engineers et qui vont pouvoir résoudre ce problème. Seul bémol, je pense quand même qu'il faut toujours garder en tête l'aspect business. On fait de la data pour le business, il ne faut pas résoudre des problèmes pour résoudre des problèmes. Et ça, je pense que c'est important de le tester en entretien en permanence et d'avoir des data scientists qui comprennent, qui vont travailler dans le secteur du transport international de marchandises, qui en ont envie, que ça passionne, pas forcément, mais en tout cas qui ont une appétence pour ce secteur et qui vont réussir du coup à être motivés au quotidien et à comprendre pourquoi on fait tout ça, pourquoi on fait aussi certains compromis par moment. Ça, c'est très important, ouais.
Tu parles d'évangélisation. C'est quoi les grandes idées reçues à casser ou les grands messages à faire passer au reste de l'équipe pour toi ?
Je dirais que c'est un problème qui est plus vaste que celui de l'entreprise. On le voit aujourd'hui avec des sujets tels que le réchauffement climatique, où en fait, on a une forme de scepticisme vis-à-vis de la donnée, en particulier quand la donnée contredit notre expérience quotidienne. Quand il fait froid, les gens ne croient plus au réchauffement climatique. C'est quand même, c'est très bizarre, mais c'est comme ça, quoi. C'est un peu pareil en entreprise. Les gens, ils sont dans leur quotidien, ils ont des intuitions, ils connaissent leur métier, ils ont des angles morts, mais ils s'en aperçoivent pas. Et donc finalement, le rôle de la data, c'est avec tact et pédagogie de les amener vers une meilleure compréhension de leur métier et de leur apporter des outils pour justement éclairer ces angles morts avec une lampe torche un peu nouvelle. Je vous rassure, nous, on n'a pas de climato-sceptique ou de data-sceptique chez Oversea, donc la mission est beaucoup plus facile, mais c'est un peu les mêmes ressorts que doit mobiliser le premier data scientist, ouais.
Comment vous mesurez la réussite ou la performance de vos projets data ou de vos algos de machine learning ?
Alors, on essaie de le faire de la manière la plus data possible. Donc, pour parler par exemple du pricing automatique, nous, on a un KPI qu'on suit qui est le temps de réponse au client. Combien de temps on met pour envoyer une proposition au client après qu'il nous en ait fait la demande ? Et donc, tout simplement, on se donne des objectifs. Je pense qu'avant le projet, on était peut-être autour de 3h30 de médiane. Le but, c'était de tomber à 2h. Quels étaient les moyens pour tomber à 2h ? Pour rentrer un peu dans le détail, quand on répond plus vite, on s'aperçoit qu'on améliore ce qui s'appelle notre win ratio, donc notre taux de conversion sur la proposition. Donc là, après, bah, c'est du produit en croix. Hein. On améliore le taux de conversion de X% en améliorant de X minutes le temps médian. Et du coup, on peut calculer un ROI et on peut regarder si on met des investissements en face. Est-ce qu'on peut faire un projet de 2 semaines, 3 mois, 6 mois ? Et on avance comme ça, ouais.
D'accord.
Après, en toute transparence, il y a quand même des projets qui sont un peu des paris, qui représentent un peu une intuition. Pour parler du projet facture commerciale, donc celui où on lit les documents automatiquement pour le restituer à nos clients, on n'a pas de chiffres exacts sur combien de clients vont utiliser Oversea en plus si jamais cette feature existe. On a une espèce de vision pour le marché qui est les gens veulent de la visibilité au niveau du SKU. Mais on aurait du mal à le quantifier. Si tu me demandais un chiffre, je serais très embêté, quoi.
Ok, donc si je résume un peu votre usage data, on va avoir le plus haut niveau, c'est le ML tactique, ce que tu as appelé ML tactique. J'aime beaucoup l'expression, je pense que je vais te la voler. Vous adressez à des petits problèmes qui sont bien qualifiés pour le machine learning. Vous avez valider ou invalider des intuitions, même prioriser les usages en général. Et puis, vous avez un champ, on va dire, monitoring, détection de problèmes, détection d'anomalies, et vous assurer de la conformité pour trouver les problèmes avant qu'ils soient coûteux, quoi.
Tout à fait. Il y a un dernier point peut-être. Je voulais aussi éventuellement évoquer ce qu'on pourrait appeler la data gestionnaire. Nous, on utilise aussi, donc je parlais du fait qu'on mappait nos transports extrêmement finement, on sait exactement ce qui se passe sur chaque transport, le temps que ça va prendre, mais en fait, on le sait aussi dans le futur. C'est-à-dire qu'en fonction des transports qui sont dans le pipeline, on sait quelle va être la charge de travail dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Et ça nous permet vraiment de piloter les équipes, parce qu'en fait, bon, les équipes, elles ne sont pas extensibles, mais en revanche, il y a des gens qui ont des projets plus ou moins build, plus ou moins run. Quand vous travaillez au pricing chez Oversea, vous allez aussi, par exemple, travailler sur la création d'un réseau de fournisseurs en Italie qu'on est en train d'ouvrir. Il se trouve que si jamais il y a une semaine de rush et que l'algorithme prédit qu'il y aura une semaine de rush dans une semaine, dans deux semaines, vous pouvez mettre en stand-by ce projet et aller aider les collègues qui sont en première ligne sur la gestion des transports, quoi. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'aider les gens à prédire la charge de travail et finalement à lisser et à rendre le travail plus agréable pour tout le monde, quoi.
Oui, il y a de l'exploration aussi. Guidé par la curiosité, entre guillemets, grâce à des outils comme Metabase et leur facilité d'utilisation, le fait que votre stack technique est bien construite derrière, ça vous permet un peu de suivre votre intuition, de visualiser des choses et peut-être prendre des décisions à la volée par rapport à ce que vous avez vu, quoi.
Ouais, tout à fait, c'est le but en tout cas.
Et on a bien compris que donc la data vous avez énormément aidé à prendre plein de décisions. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça, c'était un peu gadget, ce truc-là, cette visualisation-là, on n'en a pas besoin
C'est le combat des data scientists et de Metabase. Metabase, c'est super parce que tout le monde peut créer ses questions, faire ses analyses. Le pendant de ça, c'est que c'est un bazar sans nom et qu'il faut une rigueur et une force contraire pour que ce système tienne. Il y a, je pense, des centaines de dashboards sur Metabase qui ont été utilisés une fois, deux fois, trois fois, et en fait, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Est-ce que je dirais que c'est une erreur ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est le signe que les gens utilisent la data, veulent s'en servir, mais un peu à la manière de l'agile en software, bien malin serait celui qui arriverait à prédire ce qui sera vraiment utile aux clients au jour zéro, quoi.
C'est une façon d'explorer et de s'approprier l'outil.
Exactement. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste, et finalement, je trouve que c'est plutôt le symbole d'une réussite qu'il y ait autant de déchets. Évidemment, je préférerais que Metabase soit très bien rangé, que chacun ait son dashboard, et avec toutes les informations ultra pertinentes pour lui. Mais c'est un monde qui n'existe pas, de la même manière qu'on ne peut pas créer un software qui répond à toutes les demandes de nos clients en commençant le premier jour.
D'accord, donc Metabase, cet outil de business intelligence, il y a trop de dashboards dessus. Qui c'est qui les fait, ces dashboards ? C'est les data scientists ou c'est vraiment tous les usagers de Metabase, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas data...
Alors, tout le monde peut en faire, voilà. Effectivement, donc, je parlais au début de l'équipe data qui mettait à disposition Metabase d'équipes plus analytiques. On va dire que le gros des dashboards est produit par ces équipes analytiques, donc ces équipes de support en sales, en opérations, en produits, qui vont, elles, réellement produire des dashboards et faire appel à l'équipe data quand ça dépasse leurs compétences, quand c'est un peu compliqué, quand il y a des requêtes SQL à écrire qui sont trop complexes. Mais en général, c'est plutôt ces équipes qui sont les créatrices des dashboards, qui les maintiennent et qui les consultent.
Le choix de Metabase, il s'est fait par rapport à quoi ?
Alors, le choix, pour être tout à fait transparent, à notre époque, c'était Metabase ou Looker. Je connais un peu moins bien les outils aujourd'hui, mais c'était les deux grands concurrents de l'époque. Metabase était gratuit, Looker coûtait environ 20 000 euros par an. Quand vous êtes une start-up, le choix est vite fait. Néanmoins, on est vraiment très satisfait de Metabase. Moi, c'est un outil que je recommande chaudement. Je trouve que ils font vraiment du super boulot. Et c'est très facile à prendre en main. Et c'est un outil de self-BI qui est très performant et qui est largement suffisant pour une entreprise de 150 personnes. Et je pense que le sera encore pour une entreprise de 300, 500. On verra après ce qu'on fait, mais pour le moment, ça nous suffit largement.
Si tu devais donner un conseil à un data scientist qui sort d'école, tu dirais quoi ?
Je pense qu'il faut se détacher de ce qu'on a vu à l'école en data science. J'ai moi-même suivi une formation data avec des MATAP, de l'informatique. Et la vérité, c'est quand même que la data en entreprise ne ressemble pas du tout à la data en école. On fait pas de Kaggle en entreprise, les données sont horribles, il faut aller demander à quelqu'un dans une autre équipe qui est en vacances pendant 3 semaines de récupérer tel champ pour reconstruire telle chose, il faut aller acheter un bout de données à droite. La partie, on va dire, réellement data du métier de data scientist, en entreprise, elle est extrêmement faible, ou en tout cas, selon moi, pour les data scientists qui veulent vraiment apporter de la valeur à l'entreprise. Je pense qu'il y a quelques entreprises en France qui font vraiment du machine learning, de la data, des entreprises qui font 500, 1000 personnes. Bon, alors, il y a les très gros, évidemment, les Facebook, Google, etc. Je pense aussi qu'il y a des gros, des Thales, des Vinci, des gens comme ça qui ont des équipes data qui font de la data toute la journée. En revanche, les gens qui font de la data dans des entreprises de 150 personnes, c'est avant tout des couteaux suisses. C'est des gens qui vont vraiment vouloir résoudre le problème. Et à un moment donné, ils auront sur leur étagère de solutions l'algorithme qu'ils auront appris en cours. Mais ça représente 5, 10, 15% de leur temps maximum. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Sinon, c'est la déception assurée, quoi.
D'accord. Donc, l'utilité d'un data scientist, pour toi, elle existe que si il a un champ de compétences varié, quoi. Il est couteau suisse, comme tu dis. Et il peut s'adapter à des problèmes très différents.
Tout à fait. Et c'est vraiment, pour moi, les meilleurs data scientists, c'est vraiment ceux qui sortent de leur notebook et vont confronter leurs idées au monde réel dans l'entreprise. Et ça prend du temps, c'est désagréable. C'est sortir de sa zone de confort, hein, ni plus ni moins. Mais c'est game changer pour les entreprises. Et si, ceux qui arrivent à faire ça, ça devient des stars des équipes, quoi.
Vous avez changé de main, entre guillemets, le groupe Bolloré a pris une participation, donc en 2020, une participation majoritaire. Est-ce que ça fait peur, d'un point de vue data, l'intégration dans un groupe comme Bolloré ?
Nous, on parle de participation majoritaire. Le terme exact serait vraiment investissement. Le groupe Bolloré a compris dès le début de nos discussions qu'il n'y aurait pas d'intégration, que ce n'était pas le but. Eux croient en nos visions de marché, eux-mêmes sont commissionnaires de transport, c'est le leader français de la commission de transport, et donc eux croient en notre position de marché, eux comprennent que la digitalisation arrive à grands pas et que nous, on est en train de réussir ce pari. Eux ont des problématiques différentes, c'est un groupe gigantesque avec des problématiques de volume, des problématiques de change management, etc. Ils savent qu'on ne peut pas leur apporter le changement chez eux. Ils sont 20 000, on est 150. On peut pas faire bouger un tel mastodonte. Donc finalement, comme il n'y a pas d'intégration au niveau donné, c'est assez léger. Il y a quand même des choses qui se passent. Par exemple, on échange des informations de prix sur des routes. Par exemple, un Shanghai-Le Havre, on sait combien Bolloré paye, ils savent combien on paye. On essaie de s'entraider, mais c'est assez léger. Donc finalement, c'est assez facile.
Pour conclure, le futur d'Oversea et de la data chez Oversea, qu'est-ce que c'est ?
Toujours prendre des décisions data-driven, continuer cette évangélisation, continuer cette KPI-isation de nos métiers pour pas prendre des décisions qui soient trop basées sur l'intuition. Il faut de l'intuition dans notre métier, hein. je dis pas le contraire, mais il faut quand même, à un moment donné, se baser sur des chiffres, en particulier lorsqu'on est beaucoup. Quand on était 5, finalement, on arrivait à se mettre d'accord et à partir sur une solution. Aujourd'hui, quand vous êtes 150, vous êtes obligé de convaincre les gens plutôt que de les persuader et d'avoir des éléments tangibles, chiffrés, pour montrer dans la direction dans laquelle vous voulez aller, quoi.
Merci Antoine.
Merci beaucoup Marc.
Merci d'avoir écouté Data Driven 101. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Victor Billette de Villemeur, Product Manager chez L'Oréal, pour nous parler de son expérience avec la data. À très vite.